Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous vous saluons, vous toutes et vous tous, les fidèles et bienveillants auditeurs du Club La Presse, vous qui nous écoutez en direct sur Radio Canal FM Alomé, mais également sur les ondes des radios partenaires, Radio Lumière depuis Aného, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, et ce n'est pas fini, dans le monde entier, vous nous écoutez par le biais des radios partenaires, Radio Le Bénin et Bénin Radio, il y a l'application Canal FM et même la chaîne YouTube. Nous vous saluons toutes et tous partout où vous êtes. Vous êtes les bienvenus donc à ce numéro spécial du Club La Presse qui se délocalise ce mercredi 8 novembre 2023 à la Maison des Jeunes à Amadahome. Nous sommes dans la commune Golf 5, dans la banlieue ouest de la ville de Lomé. Notre délocalisation aujourd'hui en ce lieu se situe dans le cadre de la Semaine de la Santé. Cette Semaine de la Santé que le Conseil de l'Ordre National des Médecins du Togo organise depuis le 2 novembre et ce jusqu'au 11 novembre prochain en collaboration avec tous les autres ordres et associations du secteur de la santé dans notre pays. Mais qu'est-ce que c'est ce concept de la Semaine de la Santé? À quel besoin répond une telle initiative? Quelles sont les principales activités et manifestations inscrites au programme? Quelles sont les localités qui abritent ces activités? Quels en sont les publics cibles? Voilà les grandes questions auxquelles nous allons répondre avec autour de la table et avec moi une belle brochette de personnes ressources que nous allons recevoir et que vous allez découvrir et écouter au fur et à mesure. Juste le temps que je vous signale que cette émission est réalisée avec la mise en onde de Vitobe Kokou Michel Tomega et Gérard Kodjo Akucha. Ils viennent d'avoir le renfort de David Agouati qui vient directement de Canal FM pendant que depuis notre base à Canal FM était Kossi Thomas Datevi assure la coordination. Donc en direct depuis la Maison des Jeunes à Amadahome, vous êtes avec nous dans le Club de la Presse à l'occasion de la Semaine de la Santé. Je l'ai dit, c'est une semaine organisée par l'Ordre National des Médecins du Togo, élargie à l'Ordre National des Pharmaciens du Togo avec tous les autres corps de la santé. Mais commençons par le président de l'ONT, monsieur le président de l'Ordre National des Médecins du Togo, professeur Anthony Katenga Beketi, bonjour.
Bonjour.
Félicitations d'abord pour cette initiative. Vous êtes à l'œuvre depuis le 2 novembre dernier. Si je ne m'abuse, c'est la première fois que nous sommes à cette semaine de la santé, n'est-ce pas, professeur?
Oui, c'est la première fois que les professionnels de la santé s'associent pour organiser des événements de cette nature, c'est-à-dire sortir des bâtiments, nos cabinets et nos lieux de travail pour aller dans la communauté et où toutes les difficultés de nos systèmes de santé se posent, puisque nous nous sommes rendus compte à travers le retour des usagers et des acteurs de pilotage du système et tous les autres partenaires, comme si nous étions en train de parler du même sujet, mais chacun dans son coin. Et donc, cette semaine de santé donc a pour but de nous mettre ensemble pour discuter et de voir comment améliorer notre système de santé qui est malade.
Merci professeur. Je rappelle que vous avez inauguré cette semaine par une grande caravane qui a sillonné les villes de Lomé. C'était déjà le 2 novembre prochain. Et je parie que la semaine de la santé ne se limite pas uniquement à la maison des jeunes ici à Lomé.
Oui, la semaine de la santé ne se limite pas ici à la maison des jeunes d'Amadahome. puisque à travers les autres régions du Togo, et les mêmes événements se font et on a laissé la liberté à nos collègues qui sont dans les régions d'organiser à leur manière cette semaine de santé, mais l'objectif est toujours de se retrouver avec la population et les autres parties prenantes du système de santé pour discuter et voir ce qu'on peut faire pour améliorer. En dehors de ce lieu même à Lomé, je pense que nous avons eu des passages dans les mosquées, dans les églises, dans certaines administrations pour leur parler, mais également pour offrir quelques prestations.
Alors justement, durant cette dizaine de jours que va durer la semaine de la santé, quelles sont les principales activités ou manifestations que vous avez inscrites au programme?
Les différentes activités, d'abord, c'était la grande conférence inaugurale qui était basée sur le thème principal, la santé communautaire, défis et perspectives. Donc, on a voulu échanger sur le système tel qu'il est organisé chez nous ici, la santé communautaire, et également d'avoir un comparatif à partir de nos collègues du Mali qui étaient venus exposer leur médecine communautaire, médecine de première ligne, et qui a permis donc la formation de l'association des médecins et des professionnels de la médecine de campagne. Donc, ils s'installent dans les milieux ruraux, dans les milieux de vulnérabilité, mais avec le médecin, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers et les autres professionnels ou les chirurgiens-dentistes, ils peuvent donc s'associer pour aller dans une région et apporter leur expertise et s'installer définitivement. Ce n'est pas qu'ils vont juste pour faire des activités foraines. Donc, ça fait déjà 30 ans qu'ils ont expérimenté ce système parce qu'ils avaient expérimenté le système togolais et les agents de santé communautaire qu'ils ont trouvé que ça ne correspond pas et que lorsqu'on le fait, tous les partenaires sont insatisfaits de ces résultats. Je pense que on y reviendra sur tous ces aspects. Merci.
Oui, nous y sommes. Donc, en somme, l'expérience que vos confrères et consœurs du Mali ont partagée avec vous, c'est l'hôpital qui sort de ses cadres, qui se déplace pour se porter au contact des populations.
Là, ce n'est pas l'hôpital parce que ce sont des professionnels qui s'organisent à s'installer au niveau des milieux ruraux, au niveau des communautés. Ici, si vous regardez notre échiquier, la majorité des médecins, les professionnels de santé, en tout cas les médecins, les pharmaciens, sont dans les villes, quand on regarde dans notre système. Dans les régions, il y a peu de médecins, peu de spécialistes, la quasi-totalité, voilà, où la majorité des spécialistes sont vraiment à Lomé ici, et peut-être un peu plus à Kara, où il y a une université donc qui draine donc un certain nombre de spécialistes qui vont là-bas. Mais lorsque vous dépassez les deux sites des universités, vous allez vous rendre compte que les spécialistes sont très rares. Donc cette expérience du Mali nous a permis de voir comment les médecins peuvent donc aller s'installer dans les milieux ruraux et leur apporter donc des soins de qualité.
Merci. Voilà. Alors, la semaine de la santé, comme un de vos documents le stipule, se veut un mini-salon qui vise à regrouper tous les acteurs du domaine de la santé, les usagers. Bon, elle va couvrir diverses activités, notamment des stands de communication, des consultations foraines, des dépistages, des activités sportives, des échanges entre professionnels de santé au sens large, etc. Alors, justement, sur le site ici, j'ai vu, vous avez érigé différents stands. Est-ce que depuis le début, est-ce que vous accueillez du monde au cours de vos conférences, au cours de vos échanges et surtout à vos stands?
Oui, au cours de nos échanges, nous accueillons la population, mais elle vient timidement parce que la stratégie peut-être de communication n'a pas porté beaucoup, mais les jours passant, on voit que l'affluence vient de plus en plus par rapport au premier jour. Puisque c'est une première, la population n'est pas habituée. Et cependant, au niveau des stands, et par exemple, nous avons les CHU qui sont là. Les populations disent que on accueille mal, qu'on ne soigne mal. Ils disent toutes choses. Ils ont l'opportunité de venir rencontrer les acteurs des CHU et leur poser des questions pour se rendre compte que, effectivement, c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer, mais il y a de très bonnes choses qui se passent. Il y a des cliniques privées également qui se sont déplacées pour prendre des stands sur les lieux. Et ces cliniques privées veulent montrer les différentes offres qu'elles ont à leur niveau, comment elles sont organisées en matière d'accueil pour recevoir des patients dans la dignité. S'ils viennent, ils peuvent avoir l'information. Il y a des sociétés qui fabriquent des produits ou qui les vendent. Ils peuvent également les voir et voir tout ce qui se fait. Mais il y a également des stands des différents professionnels de santé qui sont là pour expliquer comment l'hôpital est organisé, comment les spécialités sont organisées, et quand vous venez à l'hôpital, comment le parcours se fait et à l'hôpital, pourquoi je dois aller chez tel spécialiste et non tel autre. Donc, c'est pour démythifier et l'hôpital, permettre à la population de comprendre comment l'hôpital est organisé pour que, quand ils arrivent à l'hôpital, ils trouvent que c'est un milieu où ils connaissent
merci
déjà.
Merci professeur, mais merci. J'ai observé une certaine affluence devant les stands pour les dépistages. Des fois même, ça s'apparente à des bousculades. À qui veut se faire dépister le premier?
Oui. Vous savez que la population, lorsque vous voulez leur apporter de l'information, et ils se disent, ben, qu'est-ce qu'ils nous apportent de nouveau? Vous voyez, ils ne savent pas que l'information qu'on leur donne, c'est plus importante que les dépistages. Les dépistages, ce sont des prestations qu'on fait habituellement à l'hôpital. Hein, mais je pense que l'essentiel, c'est pas de se bousculer devant les dépistages, qui est bien pour certains de savoir leur statut et aller vers des médecins, mais d'aller vers les stands où ils peuvent avoir des informations beaucoup plus importantes sur le système et comment la santé est organisée
merci
dans notre pays.
Merci à vous, professeur Beketi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre national des médecins du Togo. Une dernière question avec vous. Est-ce que tout ce qui se fait ici est dupliqué dans les villes de l'intérieur, à savoir les conférences, les ateliers, les stands, les dépistages? Est-ce que c'est la même chose qui se fait dans les villes de l'intérieur comme Thiévier, Kpalimé, Atakpamé, Sokoré, Kara et autres?
Non, je pense que en fonction des villes, il y a des villes où il y a des dépistages qui se font, mais il y a des villes où ils font des conférences et d'autres activités tout simplement.
Merci donc à vous, professeur Anthony Katenga Beketi, le président de l'Ordre national des médecins du Togo. D'un président d'ordre à un autre, nous nous tournons vers Dr Toufa Nyassenou. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour, monsieur Sass.
Vous êtes le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Première question, en quoi est-ce que les pharmaciens du Togo se croient concernés par cette semaine de la santé que les médecins organisent?
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sass, et je profite pour remercier tout votre staff qui a accepté aussi faire le déplacement d'ici à Madaromé afin de pouvoir se mettre au contact de la communauté, comme l'a décidé l'ensemble des professionnels de santé. Alors, pour revenir sur la question précise concernant le pharmacien, vous êtes sans savoir que le pharmacien est le spécialiste du médicament. On ne pourra pas parler de santé sans parler de médicaments. Et c'est important pour nous d'être dans ce système, d'expliquer le rôle que joue le médicament et comment ce médicament est réglementé, comment ce médicament doit être utilisé et comment ce médicament doit être vraiment bien contrôlé dans notre système de soins.
Alors, j'ai vu également deux ou trois stands que votre ordre a érigé ici à Madaromé. Mais concrètement, à part ces stands-là, qu'est-ce que vous faites comme participation à cette semaine de la santé?
Alors, comme participation à cette semaine de la santé, nous avions pu participer avec les autres professionnels à la caravane de sensibilisation. Nous animons cette émission présentement avec vous et nous avions demandé à nos confrères dans les différentes officines, ceux qui n'arrivent pas à faire le déplacement ici, de continuer les dépistages, que ce soit la prise de masse corporelle, la prise de glycémie, un certain nombre d'actes, la prise de tension artérielle, que nous pouvions aussi organiser dans nos structures ou bien sur le stand ici, afin d'orienter la population vers les prestataires agréés ou bien les prestataires qu'il faut en fonction des tags ou bien des écarts sur les chiffres que nous observerons dans nos différents établissements.
Monsieur le Président, alors pour bon nombre de la population, le pharmacien devrait se limiter à vendre le médicament sur présentation d'une ordonnance que le patient présente. Est-ce que votre fonction se limite à ça ou bien est-ce que vous savez faire autre chose?
Alors, merci beaucoup pour cette question et je pense que c'est vraiment le lieu. Et la plupart des professions ont eu quand même une journée pour communiquer sur leur métier. L'ordre des pharmaciens communiquera aussi sur ce que c'est que la profession de pharmacien, qui commence depuis la production du médicament, où nous avons les pharmaciens industriels qui sont au niveau de la recherche, qui travaillent jusqu'à avoir le médicament fini. En dehors de ces pharmaciens industriels, nous avons les pharmaciens grossistes, importateurs, qui vont chercher les molécules que nous avions dont nous avions besoin pour la prise en charge des pathologies de notre pays. Derrière ces pharmaciens grossistes répartiteurs, nous avons les pharmaciens d'officine qui sont au contact de la population. Donc ce sont ces pharmaciens qui sont le plus connus par la population et qui répondent aux besoins en termes de médicaments, en termes de conseils et d'orientation vers le système de soins. Nous avons les pharmaciens dans les formations sanitaires qui jouent un rôle important dans la pharmacie hospitalière afin que tous les besoins en produits de santé dans les formations sanitaires soient couverts. Nous avons des pharmaciens dans l'enseignement, nous avons des pharmaciens dans l'administration. Et donc, le métier de pharmacien, c'est un métier pour un diplôme et nous avons pas mal de disciplines aussi en pharmacie. Vous avez les analyses biologiques, vous avez les pharmaciens biologistes au niveau de tout ce que nous avons comme laboratoire d'analyse biomédicale.
Le professeur Becketty le disait tantôt, la plupart des médecins, les spécialistes, ce canton a nommé ici, l'intérieur du pays, il se retrouve un peu le parent pauvre, mais les mêmes critiques portent sur vous. Alors, est-ce que vous en êtes conscient? Si oui, comment pensez-vous corriger cet état de la cette situation?
Merci, monsieur Sass. Je pense que c'est une préoccupation très importante pour nous, professionnels de santé, parce qu'aujourd'hui, nous sommes décidés à accompagner nos dirigeants dans la couverture maladie universelle. Et donc, tout ce qui pourra se présenter comme soit désert médical ou désert pharmaceutique doit être couvert. Et en ce sens, au niveau de l'ordre des pharmaciens, depuis près d'une décennie, nous travaillons à avoir un bon maillage du territoire en termes d'établissements pharmaceutiques. Vous allez voir de plus en plus, quand vous vous déplacez vers l'intérieur du pays, dans pratiquement toutes les préfectures, vous aurez soit une officine de pharmacie, soit un dépôt, même dans les sites où vous n'avez pas soit de clinique ou bien de centre, vous avez quand même un dépôt pharmaceutique ou bien vous avez une pharmacie. Donc le problème est bien pris à cœur au niveau de l'Ordre national des pharmacies.
Monsieur le Président, une question qui nous vient d'un auditeur. Cette semaine de la santé se tient pendant que le gouvernement se trouve dans la dynamique de l'assurance maladie universelle. Alors l'auditeur voudrait savoir quels sont vos rapports avec l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, et avec l'ensemble des assureurs pour le fait de venir se procurer des médicaments chez vous.
Alors, d'abord, notre rapport avec l'INAM, je dirais que l'ensemble des pharmaciens, notamment les pharmaciens installés en officine privée de pharmacie, ça fait près de 10 ans ou plus que nous collaborons avec l'INAM. Et il y a beaucoup de leçons apprises. C'est vrai que tout n'a pas été rose. Et vous le savez, lorsqu'on vit, il y a toujours des moments de friction, mais il faut toujours s'asseoir, trouver des solutions afin d'améliorer nos pratiques. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, avec l'INAM, je pense que tout se passe bien. Il y avait eu des périodes de tension, mais la plupart des pharmacies aujourd'hui servent tous les assurés INAM. Les assurances privées aussi, pour les pharmacies qui sont conventionnées, ils honorent les demandes des patients. Il se peut-être que certaines pharmacies aient des factures non payées par ces assurances et nous avions des conventions avec tout les assurances que nous avons dans notre pays, mais les clauses ne sont pas souvent respectées et cela, pour être franc avec vous, pénalise sévèrement les pharmaciens qui n'ont pas les mêmes conditions avec soit les grossistes ou bien avec les banquiers, mais qui ont des prêts pour pouvoir supporter leur stock de fonctionnement. Et ce stock, après avoir dispensé ces produits, il faut pouvoir les payer, avoir suffisamment d'autres produits pour servir la population.
Merci. Nous sommes dans la semaine de la santé. Aucune question n'est taboue.
Bien sûr.
Pour ce qui est de la santé. Alors, pour vous les médecins, certaines critiques qui vous sont adressées. D'abord, je voudrais que vous nous rassurez que tous les produits que vous vendez dans vos officines sont réellement labellisés et qu'on ne trouve pas des pharmacies, disons des produits de la rue dans vos rayons, Monsieur le Président.
Monsieur Sass, je peux vous assurer que le pharmacien, c'est un cadre de la santé. C'est un professionnel qui a prêté serment pour la santé de la population. Et les produits, avant que les produits ne rentrent dans notre pays, tous ces produits sont autorisés par le ministère de la Santé. Donc ce sont des produits qui ont un visa, une autorisation de mise sur le marché, et ces produits sont importés. S'il y a des besoins spécifiques, il y a des autorisations spéciales d'importation avant que ces produits ne rentrent dans le pays. Et les pharmaciens s'approvisionnent chez des grossistes agréés qui importent les produits et tous ces produits sont contrôlés, sont surveillés. Et il y a ce que nous appelons la pharmacovigilance qui est la phase de surveillance des produits même après l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, au cours de cette surveillance, il peut y avoir des effets. C'est pour ça que les professionnels de santé sont là pour écouter les patients pendant l'utilisation, s'il y a des effets, soit les réorienter, soit réajuster la posologie ou bien réorienter vers le prestataire, vers le praticien, afin que ce patient soit mieux pris en charge.
Autre fait sur lequel je voudrais attirer votre attention, même si vous le savez déjà, il nous revient souvent des cas de mauvais accueil dans vos officines. Ça, c'est d'un. De deux, quand on achète les produits et que le patient doit avoir son reliquat, vous n'avez jamais de monnaie pour les 25 francs, les 10 francs, les 5 francs, ce qui conduit souvent à des frictions, Monsieur le Président.
Alors, Monsieur Sass, l'accueil, je pense que c'est un problème général dans tout notre pays. Ce n'est pas que dans les pharmacies ou bien les formations sanitaires. Même dans l'administration, un peu partout, même dans les institutions financières, même dans les marchés, nous y travaillons. Et je peux vous assurer, l'année dernière, nous avions même formé avec l'appui du FNA-FPP l'ensemble de nos collaborateurs afin qu'on puisse mieux accueillir les patients. Un patient bien accueilli est à moitié guéri, il est plus confiant, il s'ouvre à son professionnel de santé. Alors sur la question des monnaies, nous sommes dans une époque de digitalisation. Les pièces se font de plus en plus très rares. Vous ne pouvez pas imaginer la course des pharmaciens qui des fois abandonnent leur boulot et avec leurs collaborateurs doivent passer soit dans les églises, soit dans les marchés. Même avec l'appui de la BCAO qui arrive à disponibiliser ces petites coupures et les pièces, c'est toujours insuffisant et nous rapprochons, que ce soit pour ne pas faire de publicité, de certaines institutions afin de voir les moyens de paiement digitalisés et éviter ces couacs que nous avions. Notez que les médicaments ont une structure de prix réglementée et le pharmacien ne fixe pas le prix. Ce qui fait que les prix arrivent toujours, soit avec 5 francs, avec 15 francs, avec 25 francs. Et le pharmacien ne pourra pas arrondir ou faire quoi que ce soit. Et c'est ce qui explique ces écarts de 5-10 francs. Des fois même, lorsqu'on les rend aux patients, ils disent « Moi, je ne veux plus de ces pièces-là ». Pourquoi nous, on fait l'effort d'avoir toujours de ces pièces et de les rendre
merci
aux patients.
Vous, merci à vous, docteur Toufa Nyassenou, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Je viens d'être rejoint plateau par le confrère Sylvestre Kokou Béni, bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous.
Du journal La Manchette, ceux qui écoutent le Club de la Presse savent qu'il est un habituel des mercredis. Eh bien, Kokou Sylvestre, à chaque moment que tu ressentiras le besoin d'émettre un avis ou bien de poser une question à un invité, tu es le bienvenu.
Oui, justement, si tu le permets, puisque j'ai le président de l'Ordre des pharmaciens ici. Il y a quelques semaines, nous avions enregistré du moins la perte d'une fille au nord du pays parce que elle a cherché en vain donc le sino je crois qu'il y a un vaccin
sérum
un sérum anti-vénéneux. Et donc, ils ont cherché en vain. Mais comment se fait-il que ce sérum devient quelque peu rare au nord du pays, puisque il y a un premier cas à Accra où, heureusement, que le jeune qui est un élève en classe de terminale est guéri, mais la fille qui est malheureusement décédée au niveau donc de ce côté, comment se fait-il que nous n'avons pas quand même ce vaccin dans les officines au nord du pays?
Docteur Nyansenou.
Monsieur Sass, Monsieur Sivers, merci beaucoup pour la question. Je pense que ça fait partie des problèmes que nous avions connus ces dernières semaines et c'est un sujet d'actualité. Le sérum antivenimeux, il y a des périodes où nous avons de fortes demandes dans le pays et c'est un produit de santé qui est subventionné dans le secteur public. Ce qui fait que dans le secteur privé, ce même produit, vous pouvez l'avoir à hauteur de près de 60 000, qui n'est pas à la bourse de tous nos concitoyens. Le produit étant subventionné, quand vous regardez un peu l'écart de 60 000 jusqu'à 15 000 où on peut l'avoir aujourd'hui, il faut que ce produit soit bien utilisé. Il faut qu'on soit efficient dans la disponibilité, mais aussi dans l'utilisation de ce produit. Alors, pour le cas de la jeune fille, le produit était disponible. Je pense qu'il y a eu des appréciations qui n'ont pas été bien menées et ce qui a entraîné des allers-retours jusqu'à ce que on pète cette jeune fille, paix à son âme et nos sincères condoléances à toute la famille. Je peux vous rassurer que le produit est disponible au niveau de la CAMEC, la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques, qui fait de l'approvisionnement des formations sanitaires publiques. Le produit se retrouve dans le circuit et il faut qu'on ait le personnel adéquat au niveau des formations sanitaires pour assurer l'approvisionnement et la mise à disposition de tous ces produits de santé à la population au bon moment. Et
merci. Cette question de Sylvestre et la réponse de Dr Nyansenou constitue une belle transition pour notre prochain invité qui se trouve être Dr Kofi Gilbert Tcholignanou. C'est Kossi. Bien. Secrétaire général du SINFOT, le syndicat national du personnel hospitalier du Togo. Camarade, salut.
Salut, camarade.
Eh bien, commençons par cette question qui avait suscité beaucoup d'émoi et beaucoup d'émotions. Mais avant ce tout bois, il y avait également Cara avec ses quiproquos qui se sont soldés par la mort de cette jeune fille. Le personnel de la santé avait été impliqué dans cette affaire. Des mesures avaient été prises. Docteur Tcholignanou, je me rappelle que vous étiez auto-saisi aussi bien de la question de Cara que de Sotouboua. Voulez-vous nous en faire rapidement le résumé, docteur?
Merci, Sass. Merci aux auditrices et auditeurs et félicitations à l'Ordre des médecins pour la semaine de la santé. Chapeau au professeur Beketti et à toute son équipe. Alors, j'aurais souhaité ne pas aborder ce sujet, mais comme vous tenez tant ce que je le fasse, donc je vais me faire le plaisir, le devoir de l'aborder. Je vais être clair là-dessus. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, la quantité de sérum anti-venimeux nécessaire pour la couverture de notre pays est disponible à la CAMEC. Évidemment que le pendant les pharmaciens est là, il saura mieux nous le dire. Mais sauf que, quand le truc s'est passé à Cara, le CHU Cara avait fait une demande de 300 boîtes à la CAMEG et n'a reçu que 3 boîtes.
3 boîtes sur 300.
Et donc, je crois qu'on ne va pas venir faire un tribunal ici, mais il est important que nous arrêtons d'être dans, excusez-moi l'expression, dans essayer de polir les choses, mais de regarder en face les problèmes. Nous sommes tous conscients qu'il y a un souci avec le sérum antivenimeux sur le plan international. Mais il est aussi important que les pays africains qui en ont besoin se prennent en main pour savoir comment ils procèdent pour avoir des sérums antivenimeux propres à leur réalité. C'est un autre débat qu'on peut ouvrir. Je m'arrête là. Maintenant, pour ce qui est de l'enfant qui est décédé à Sotouboua, comme on l'a dit, nous présentons nos condoléances aux familles éplorées. C'est une perte en vie humaine qui, ma foi, doit être la dernière. La dernière parce que chacun doit assumer sa part. Et chacun doit donc être responsable.
Et quand je parle de responsabilité, je parle aussi bien du ministère de la Santé, je parle des soignants que nous sommes, et je parle aussi des parents. Et donc c'est pour cela que le Saint-Faut l'a annoncé, nous allons entreprendre dans les prochains jours avec l'accord de nos conseils, nos avocats, nous allons porter plainte pour qu'on situe les responsabilités et au même moment nous allons porter plainte au niveau du tribunal du travail pour que les déviances qu'on remarque dans l'emploi du personnel avec des contrats factices, avec des comportements hasardeux cessent. Nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui que nous les soignants devenions le souffre-douleur des autres. Il y a des réalités et on ne sera pas le bouc émissaire. Donc, chers amis, vous me connaissez, je suis pas le genre fait dans la langue de bois. Je crois que ce débat, il est important qu'on le mène publiquement, mais il est important que les premières autorités sanitaires s'en approprient le plus vite possible. Nous allons vers l'assurance maladie universelle. La disponibilité des médicaments, aussi bien essentiels que génériques, des médicaments à usage exclusivement hospitalier, qu'on ne devrait pas voir dans les officines, mais que nos officines essayent de trouver pour nous aider. Mais on fait semblant, on tourne autour du pot et puis on avance. Il faut arrêter.
Merci. Je sens vraiment le syndicaliste. Et à ce niveau, il y a les responsabilités au niveau de l'État pour l'approvisionnement des médicaments au sein de la CAMEC. Il y a également les responsabilités des officines privées, hein, notamment l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Une précision avec le président Beketi de l'Ordre des médecins du Togo.
Oui, c'est vrai, sur cette question, je vous remercie de nous interpeller sur cette question. Parce que c'est une question qui est importante et c'est l'un des objectifs même de la Semaine de la Santé. Pourquoi ? Parce que la Semaine de la Santé sert à informer la population. Vous voyez ? Dans le cas malheureux de cette jeune fille, il y a d'abord quoi ? Le retard de prise en charge. Le fait d'aller déjà, et traîner chez un tradithérapeute et venir lorsque les complications commencent, c'est déjà une situation qui n'est pas normale parce que ça ne permet pas une bonne prise en charge. Parce que cet enfant est arrivé dans un état de moribond. Il était en coma et posait d'abord prioritairement un problème de réanimation. C'était même pas prioritairement un problème de sérum antivenimeux. C'était un problème de réanimation. Donc, or, on sait que dans les morsures de serpent, il y a plus de 80% où il n'y a pas d'envenimation. Ce qui fait que il y a des gens qui dispensent des soins traditionnels qui peuvent soigner des cas de non-morsures où il n'y a pas de complications et on ne saura pas. Et dans un système de santé qui est efficient, ça veut dire qu'il doit avoir des organes de surveillance et de sécurité de tous les produits de santé. Donc, ce qui fait que on aurait déjà contrôlé cet aspect.
Merci, professeur. Merci pour beaucoup. Cette précision. Mais revenons à la qualité. C'est nous?
Oui, monsieur Sass.
Je disais,
depuis dans, nous souhaitons depuis, et même si on le dit en anglais, the right man at the right place, l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Tenons-le pour dit. Je reviens à vous, camarade Gilbert. Vous avez salué l'initiative de la semaine de la santé. Alors dites-nous, vous les syndicats, hein, en quoi est-ce que vous vous sentez concerné par cette initiative de la semaine de la santé?
Donc nous nous sentons.
Maintenant la balle est bien remise à terre.
Non, non, nous sommes partis loin, donc... Nous nous sentons concernés à plus d'un titre, d'autant plus que nous sommes en train de parler de... Actuellement, le Saint-Fort est en tournée nationale et le thème de la tournée, quoique statutaire, est centré sur l'accueil et la lutte contre les mauvaises pratiques dans les structures sanitaires publiques du Togo. J'ai mon équipe qui est actuellement à Badou, en train de sensibiliser. Je suis rentré hier nuit de Amlamé pour participer à cette émission et en participe aussi à une réunion avec le ministère de la Santé sur l'assurance maladie universelle. Et donc oui, nous sommes concernés parce que il est important de sensibiliser la population, d'écouter aussi les reproches que les gens nous font et d'améliorer notre pratique quotidienne dont le but ultime est de sauver des vies. C'est de sauver des vies. Ce n'est pas de perdre des vies, mais c'est de les sauver. Donc oui, c'est une initiative qu'il faut saluer et qu'il faut pérenniser, en ce sens que on doit avoir un contact entre les praticiens que nous sommes et la population. Surtout qu'aujourd'hui, on se rend compte que des gens veulent opposer les praticiens que nous sommes à la population que nous soignons. Et comme je l'ai dit, je ne serai pas d'accord que cela se fasse. Chacun doit faire son boulot, mais chacun doit savoir également que quand on parle de droit, on parle de devoir. Et quand on parle de devoir, on parle de responsabilité et que chacun fasse vraiment sa part.
Merci, camarade. Alors ici à Mandahomé et ou un peu partout dans le Togo, qu'est-ce que vous les syndicats, qu'est-ce que vous faites concrètement comme collaboration, comme participation à cette semaine de la santé?
Notre participation, elle est claire. Nous sommes en tournée dans la semaine de la santé pour sensibiliser nos camarades sur le bon accueil et la lutte contre les mauvaises pratiques. Parce que pour nous, c'est important. Même pour aller à l'assurance maladie universelle, il est important que nous soyons dans la dynamique de mieux accueillir les gens et d'éviter que des pratiques peu orthodoxes qui nous salissent, qui ternissent notre corporation et que les gens ont bon dos d'utiliser pour nous nuire, que nous mettions fin à cela. Et moi, je suis d'autant plus content qu'on aille vers l'assurance maladie universelle parce que ça évitera le contact du praticien à l'argent. C'est-à-dire que si tout est bien informatisé, si les circuits sont bien clairs, si on a une pharmacie hospitalière en bonne et due forme, évidemment, et qu'on a un système de santé, pas de prescription, comme cela est le cas aujourd'hui, puisque quand vous arrivez à l'hôpital, quand vous êtes malade aux urgences, on vous fait une ordonnance, ce qui est une aberration par rapport au système de santé. Ce n'est pas normal que pour des urgences, on fasse une ordonnance. On doit pouvoir vous soigner et après vous régler les choses. Mais comme au Togo, c'est le système de prescription et non de dispensation, ce qui fait que, par exemple, pour le sérum anti-venimeux, au lieu qu'on vous l'utilise, on va vous prescrire ça sur ordonnance, vous allez acheter, on remet ça à l'accompagnant
qui
revient pour qu'on vous le fasse. Franchement, camarade Sass, ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal.
Vous comprenez?
Et donc, c'est pour normal, ça que il faut le normaliser.
Nous sommes heureux que la semaine là soit là, que la vérité soit dite et qu'ensemble nous puissions œuvrer à l'érection d'un système sanitaire moderne et non d'incantation.
Voilà. Merci du syndicat. Nous passons maintenant à un corps de la santé essentiel. C'est entre les mains de ces dames et de ces messieurs que l'enfant naît. Mais que d'ingratitude des fois quand il y a quelques malheurs. C'est pour dire que je me tourne à présent vers l'Association des sages-femmes du Togo avec sa présidente, Madame Tchagnao. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Eh bien, l'Association des sages-femmes s'implique pleinement dans la semaine de la santé, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Eh bien, quel intérêt y trouvez-vous à vous associer à cette semaine de la santé?
Nous faisons partie du corps de la santé. Nous sommes un moyen.
Oui, allons-y.
Ok, je disais que nous faisons partie intégrante du corps de la santé et nous sommes un maillon essentiel dans le corps. Mm-hmm. Tout le monde parle de sage-femme parce que tout commence par nous.
Je l'ai dit.
Nous tous ici, même le SIG, Il a passé par les mains de la sage-femme.
Ouais. C'est un monsieur qui m'a accouché.
Il a passé. C'est une usurpation. C'est une usurpation. On va revenir. Ça, j'en ai parlé sur un autre plateau. Oui. Parce qu'on me disait, vous permettez, je vais ouvrir. Puisque
non, ouvrez les parenthèses.
Qu'il y a des accoucheurs. Et j'ai dit non. À l'origine, ils n'étaient pas là. C'est parce qu'ils ont vu entre-temps la noblesse du métier qu'ils sont tombés. Ils sont même pas dedans, ils sont tombés dedans. Mmh. Donc, nous, ça ne nous inquiète pas. Les hommes dans accoucher, ça ne nous inquiète pas du tout. Hein. Mmh. Nous sommes sereins.
Donc, comme nous disons sage-femme, est-ce que nous allons nous préparer à parler de sage-homme bientôt?
Bon, sage-homme, il y en a déjà dans d'autres pays. Et quand on prend les pays du Sahel ou... Le pays est tellement vaste, il faut... Même en Côte d'Ivoire, il vient d'avoir... Je pense que c'est la première promotion qui est sortie en Côte d'Ivoire. Il y a même un problème. Bon, et sinon, dans les autres pays, il y a quand même des hommes qu'on appelle maïticiens. Donc, ils sont là. Mais au Togo, on n'en a pas encore. Même en France, hein, il y a des hommes qui sont... Sage-femme, on ne sait pas si c'est monsieur la sage-femme, c'est monsieur le sage-femme, c'est monsieur, on ne sait vraiment pas l'appellation, mais il y a quand même des hommes.
Il y a quand même des hommes. Mmh. Eh bien, alors, juste là, cela m'amène à poser une question un peu naïve, excusez-moi. Voulez-vous nous situer la différence entre un gynécologue et une sage-femme? Enfin, un ou une gynécologue et une sage-femme.
Ok, les médecins sont là. Le gynécologue, c'est un médecin, après ses 7 ou 8 années de médecine, s'est spécialisé en gynécologie, la branche qui s'occupe des organes génitaux. Mais la sage-femme, elle, c'est l'accouchement, c'est l'obstétrique qu'elle doit faire. Mm-hmm. Mais maintenant, on a des gynécologues obstétriciens. Obstétriciens, bon, on va parler dans les détails. On est ensemble. Mm-hmm. Voilà. On a quand même des gynécologues obstétriciens. Mais la sage-femme, c'est la sage-femme. Nous, là, c'est non. Nous.
C'est vous qui accouchez. C'est dans vos mains que nous venons à la vie.
Nous, c'est nous.
Vous, c'est vous.
Nous, c'est nous.
Merci beaucoup, madame. Alors, à cette semaine de la santé, j'ai cru voir un ou deux stands sur lesquels c'est écrit Asafeto. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous offrez comme prestation dans vos stands à l'endroit du public, à cette semaine de la santé?
À cette semaine de la santé, ce que nous avons voulu offrir, c'est la planification familiale et le dépistage du cancer des seins par l'autopalpation des seins et puis l'apprentissage de l'autopalpation des seins aux femmes pour qu'elles puissent s'autopalper chaque mois à domicile et le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Mais le constat, c'est que les femmes ne viennent pas pour la planification familiale.
Ici ou dans vos centres hospitaliers?
Ici. Je vais en venir. Mm-hmm. Ici, elles viennent, il y a affluence. Quand vous allez, toutes sont venues pour le dépistage des lésions précancéreuses. On m'a notifié ça ce matin. Et j'ai dit, bon, que les femmes, elles sont intelligentes parce qu'elles savent que après la fermeture, elles vont aller dans les centres, elles vont vous retrouver, vous allez faire la planification. Mais comme... Le dépistage n'est pas intégré dans nos activités de routine. C'est l'association des sages-femmes qui, chaque 5 mai, qui est la journée internationale de la sage-femme, nous, on a décidé à chaque 5 mai de faire des offres de soins gratuits en faisant ce dépistage aux femmes. Mais cette année, avec Octobre Rose, on a commencé avec un groupe de femmes et finalement, on est arrivé avec le mouvement des femmes unies avec qui on a fait le dépistage à la maison de la sage-femme. C'est largement diffusé sur les antennes. Les gens ont vu, ceux qui ont vu, ont vu. Et après ça, nous sommes allés déjà dans savane. Nous avons dépisté les femmes dans les savanes, toutes les préfectures des savanes. Mais nous sommes en train de voir si on peut continuer dans d'autres régions parce qu'on a vu que le besoin est là. Et nous voulons le faire. À la fin, nous allons faire un rapport que nous allons soumettre à l'autorité pour voir comment on peut intégrer cette activité dans nos activités de routine dans les maternités. On va commencer par la formation du personnel dans ce sens et on verra.
Merci Madame Tchagnao. Vous êtes la présidente de l'association des sages-femmes du Togo. Comme vous l'avez dit, c'est vous qui accouchez. C'est dans vos mains que les enfants viennent à la vie. Mais c'est vous accouchez dans les hôpitaux. Sous la supervision des médecins, des gynécologues. Mais dans nos quartiers, Madame Tchagnao, vous le savez, il y a de jeunes dames animés de la meilleure volonté, mais qui ont travaillé dans quelques cabinets médicaux pendant 2-3 ans et qui viennent ouvrir des cabinets où elles accouchent. Alors, est-ce que vous reconnaissez ces consoeurs-là dans votre corporation de sages-femmes?
Mais là, ça fait deux questions. On va les scinder pour mieux répondre. La sage-femme accouche sous la supervision des médecins. Non, la sage-femme n'accouche pas sous la supervision du médecin.
Ok, donc je retire
ça. Non, il ne faut pas retirer, on va expliquer. Il faut qu'on comprenne. La sage-femme n'est pas un personnel paramédical comme on tente de le dire, de le faire croire ici. Ce n'est pas au Togo seulement. La sage-femme, ce n'est pas au Togo. La sage-femme, l'infirmière, ce n'est pas au Togo. C'est dans tous les continents du monde. Mais la sage-femme n'est pas paramédicale. Elle accouche sous sa propre supervision. Une fois, j'en ai parlé avec le professeur
Beketi,
qui dit oui, oui, vous faites les accouchements ectopiques. J'ai dit oui, on fait les accouchements ectopiques. Mais nous posons le diagnostic de l'accouchement dystocique et on vous fait appel.
J'ai pas bien entendu. Accouchement
dystocique.
Alors en français facile, ça veut dire quoi?
Ça veut dire les accouchements qui sont difficiles.
Ah, voilà.
Donc, nous posons le diagnostic avant de vous dire, médecin, venez, parce qu'il y a problème ici. Mais on n'accouche pas forcément sous le contrôle. La sage-femme prend la garde elle seule. Elle agit seule sous son propre contrôle. Et c'est quand il y a problème qu'elle appelle le gynécologue. Ce n'est pas comme l'infirmier qui est là et que le médecin doit prescrire et que lui va. Non, il faut qu'on commence par faire. Mais maintenant, ceux qui sont animés de la bonne santé et qui veulent avoir des cliniques et accoucher, c'est simple. La bonne santé, volonté là, c'est de faire ce qui est normal. C'est d'aller à l'école. L'école est ouverte. Il y a maintenant, on a, je crois, 6 écoles maintenant. Donc, il faut avoir d'abord le baccalauréat, deuxième partie, et puis il faut passer un concours. C'est l'État qui sélectionne les gens. Le concours n'est pas organisé par...
officiel, mais le cas que j'évoque et dont vous êtes certainement consciente, femmes qui ont travaillé dans des cabinets médicaux où elles ont assisté une accoucheuse pendant 2-3 ans, elle s'octroie le privilège d'ouvrir un cabinet où elle accouche, si elle ne fait pas plus, madame.
Le métier de sage-femme, c'est un art. N'est pas sage-femme qui veut. Donc, on ne peut pas s'octroyer ce privilège. Ça, tout court, là, ça rentre dans l'exercice illégal. Et nous, là, Dieu merci, là, nous avançons vers un ordre. Quand nous allons arriver, nous allons avoir l'ordre national des sages-femmes du Togo. Nous pensons que avec les autres corporations ici, là, et vous, les journalistes, vous savez nous critiquer, mais vous ne savez pas nous défendre. Vous, surtout. Oui. Donc, on verra comment on va mener le combat. C'est vrai, les journalistes savent nous critiquer. Nous, on a sanctionné une sage-femme. Elle n'était même pas au courant, mais c'est parti sur les réseaux sociaux. Si moi, je suis dans mon service et que j'ai commis une faute, est-ce que mon mari et mes enfants doivent la prendre forcément sans que je ne leur dise? C'est une infraction. Ouais, il faut qu'on commence par régler les choses.
Je vous le concède, mais il y a un distinguo à faire entre le journaliste professionnel et ceux qui s'expriment sur les plateformes ici et là. Merci.
Oui, oui, mais ça là, on ne refuse pas. Oui. C'est un peu la même chose. Quand vous dites les gens de bonne volonté vont accoucher et puis la sage-femme, c'est la même chose. C'est difficile de faire la distinction entre ceux qui accouchent et ceux qui n'accouchent pas. Et puis chaque fois, vous-même, il y a des choses que vous n'avez pas voulu dire. Moi, je vais vous le dire. Parce que dans la communauté, la sage-femme est très décriée. À tort, à raison, c'est la communauté qui va le dire. Mais moi, ce que je pense, c'est que cette semaine, nous l'avons organisée pour que la population arrive, pour nous poser des questions, pour qu'on puisse répondre. Mais la population, quand bien même on l'a invitée sur les chaînes de radio, à la télévision, elle n'est pas arrivée. Ce n'est pas un problème. Nous leur disons que nous sommes toujours là. Quand il y a un problème là, nous sommes sortis de cette communauté. Et nous sommes allés nous faire former. C'est un peu comme le militaire. Il est de la communauté, il est sorti, il est allé se faire habiller. Mais de toutes les manières, il va retourner dans la communauté. Nous retournons toujours dans cette communauté et nous devons vivre en harmonie avec cette communauté. Ils veulent notre bien. Nous aussi, nous sommes là pour notre bien, pour leur bien. Et il faut que nous sortions des enfants vivants pour la nation togolaise. Si nous sortons des enfants qui sont réanimés pendant 30 minutes, c'est gâté depuis la naissance. Ça ne peut rien devenir à l'avenir. Donc, nous avons besoin plutôt de leur soutien que de leur critique. Ça, c'est un cri de cœur.
Merci. Là, je sens une dame vraiment fière de son corps et déterminée à défendre elle-même et ses consoeurs. Bientôt, vivement que vous arriviez à votre ordre des sages-femmes, et nous les journalistes, nous serons toujours là pour relayer toutes vos intentions, toutes vos actions. Et des sages-femmes, venons-en maintenant aux infirmières, avec madame Dissogba Colm. Bonjour madame.
Bonjour monsieur Sass.
Vous êtes la vice-présidente de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo.
Tout à fait.
Et vous êtes partenaire de cette semaine de la santé.
Oui.
Eh bien, qu'est-ce que vous y faites concrètement?
Dans la 7 semaines de la santé, nous avons organisé des séances de dépistage dans la communauté. On était dans les églises, dans la mosquée, et nous avons maintenant un stand sur le site de Amanda Homi.
Ici où nous sommes.
Ici où nous sommes. Mm-hmm. Où on fait la prise de la tension, la glycémie, la prise de la taille, le poids, et on calcule l'IMC.
L'IMC,
indice de masse corporelle.
Pour avec... savoir si on n'est pas en obésité.
Tout à fait. Et sur le même stand, en collaboration avec le laboratoire, je ne vais pas faire de publicité, avec un laboratoire, nous avons un appareil de taux d'hémoglobine, nous dépistons, nous faisons aussi le taux d'hémoglobine sur notre stand.
Eh bien, infirmier, madame l'a dit, n'est pas sage-femme qui veut. Alors, est-ce que n'importe qui peut se prévaloir d'être infirmière? Madame Dissogba.
N'importe qui ne peut pas être infirmière ou infirmier. Pour être infirmier ou infirmière, il faut avoir le BAP, comme madame la présidente des sages-femmes l'a dit, et passer un concours et aller à l'école et des infirmiers et infirmières du Togo. Il y en a plusieurs. Dans toutes les régions, il y a les écoles des infirmiers et infirmières.
Et la formation dure, je crois, 2 ou 3 ans.
La formation dure 3 ans.
Et vous sortez infirmière d'État. Et maintenant, vous travaillez comme... Alors, est-ce que vous êtes les auxiliaires des médecins ou bien leur assistant, ou bien qu'est-ce que je dois dire pour ne pas vous frustrer?
Et les infirmiers et infirmières ont 2 rôles. Nous avons 2 rôles. Il y a notre rôle propre et le rôle de collaboration. Dans notre rôle propre, on doit venir en aide aux malades qui viennent à notre niveau. Maintenant, le rôle délégué, là, on administre les soins prescrits par le médecin. Donc, nous travaillons en collaboration avec les médecins. Nous ne sommes pas les auxiliaires, comme vous venez de le dire.
Mm-hmm. Vous travaillez en collaboration avec les médecins.
Oui.
Alors, est-ce que vous êtes habilité à créer une clinique, vous-même, infirmière?
Nous n'avons pas habilité à créer une clinique, mais un cabinet. Il y a un test que le ministre a signé la dernière fois.
Le ministre de la Santé a signé la dernière fois pour
l'installation en clientèle privée. Un infirmier peut installer un cabinet, mais il ne peut pas faire la prescription. Il ne peut que faire le rôle dont il est capable de le faire, dont il est désigné.
Merci. À ce niveau-là, une question de Sylvestre Kokou.
Est-ce qu'un infirmier peut poser un diagnostic? Parce que généralement, dans la société, les médecins aussi gardent quelque peu dents contre vous, comme si vous êtes en train d'usurper leur profession, et que donc voilà, est-ce que vous pouvez poser un diagnostic? Parce que dans les communautés, surtout dans les milieux les plus reculés, on vous reproche de vous comporter comme un médecin.
Merci. Un infirmier peut poser un diagnostic, mais pas un diagnostic médical. Je venais tout de suite de parler d'un rôle propre. Dans notre rôle propre, on évalue les besoins. Et selon le modèle conceptuel de Virginia Anderson, qui est l'une des pionnières de la profession infirmière, il y a 14 besoins fondamentaux chez un individu. Donc quand la personne est malade, elle vient à l'hôpital, c'est qu'un besoin est perturbé. Là, on fait un diagnostic, on évalue les besoins, on pose un diagnostic infirmier, pas un diagnostic médical. Un diagnostic infirmier, on élabore les objectifs et on met en marche le traitement. Et le traitement, ce n'est pas en utilisant les médicaments. Nous sommes là dans le rôle d'aide. on n'utilise pas les médicaments pour nous, notre traitement dans le rôle infirmier. Maintenant, pour la seconde partie, c'est que, étant en périphérie, il y a un protocole déjà établi, pré-établi, que les infirmiers suivent. Les infirmiers en périphérie suivent. Ils ne font que suivre le protocole déjà établi. Et à l'école, on nous a aussi montré comment traiter certaines maladies dont on prend en charge.
Mm-hmm. Alors justement, professeur Beketti, ce que dit madame Dissomba nous intéresse dans nos périphéries. C'est une réalité. Il y a des gens qui ont ouvert des cabinets ou bien des cliniques, des centres, je ne sais pas, où ils ou elles accouchent, où ils ou elles traitent des maladies. Alors, c'est par faute de l'existence d'un hôpital officiel. Alors, au niveau de l'ordre, est-ce que vous en êtes conscient, notamment ce qu'elle a dit, à savoir un certain protocole en vigueur dans ces périphéries? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus pour nous rassurer, professeur?
Oui. Non, c'est-à-dire, la loi est claire sur le monopole médical. Et l'infirmier est un paramédical. Et dans notre loi ici également, la sage-femme est considérée comme paramédicale. Ça, c'est dans la loi et le code de santé togolais. Oui, ben bien sûr, puisque c'est notre code de santé. Donc, c'est de ça que nous parlons. Donc, un infirmier ne peut pas faire un diagnostic médical. Elle a parlé du diagnostic infirmier. Mais cela, il y a des nuances. Parce que quand on parle comme ça, ça peut porter à confusion. Lorsque vous voyez les protocoles qui sont faits, normalement, ces protocoles doivent être sanctionnés par une délégation signée par le médecin référent. Lorsque le protocole n'est pas signé par un médecin référent et qu'un infirmier applique, c'est de l'exercice illégal de la profession médicale au vu de la loi. Donc, un infirmier qui accepte de le faire sans protocole de délégation, c'est qu'il s'expose à la loi. C'est vrai qu'il est dans l'administration, donc il y a la responsabilité de l'administration qui est là, mais il doit couvrir sa responsabilité en demandant à ce que un protocole de délégation soit signé en bonne et due forme. Et ça se passe dans d'autres pays où cette nuance est faite pour éviter qu'on vienne accuser un infirmier d'en train d'exercer illégalement la profession médicale.
Donc, surtout en cas de souci, s'il y a une complication, voire même de décès, alors l'infirmier non assermenté qui ouvre son cabinet s'expose aux rigueurs de la loi.
Un infirmier qui ouvre un cabinet et qui fait du diagnostic médical et qui prescrit des médicaments, il exerce illégalement la profession médicale, qu'il ait un diplôme d'État, un médecin, et où qu'il le fasse lui-même. Maintenant, au-delà de cela, il faut dire que lorsqu'un infirmier est dans un cabinet privé, il n'y a pas de délégation. Il ne peut pas appliquer un protocole de délégation. Parce que quand on est dans le privé, on est autonome à appliquer. Et là, il n'y a pas de délégation. Mais lorsque vous êtes dans une structure hospitalière où vous avez des gens sous qui vous administrez certaines choses, vous pouvez avoir de la délégation dans un hôpital privé, mais vous pouvez avoir aussi de la délégation dans un hôpital public, mais pas en tant que privé dans son rôle propre.
Merci. Nous approchons de 12h, l'heure de la pause. Synthétiser pour dire que nous avons eu tour à tour le président de l'Ordre national des Français du Togo, professeur Beketti. Nous avons également eu le docteur Toufa Miassenou de l'Ordre des pharmaciens du Togo. Entre-temps, il a été appelé à une urgence, mais l'une de ses collègues, docteur Nimo, est à nos côtés. Nous avons écouté également le secrétaire général du SINFOT défendre avec ardeur et hargne le personnel de la santé, autant, voire même plus, de la part de madame Tchanyao, qui a défendu, d'abord, qui a rappelé les prérogatives et les missions du corps des sages-femmes. Et puis nous avons également écouté madame Dissomba Kone, la vice-présidente de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo, en tant que j'ai eu à bénéficier de la collaboration. de mon ami Sylvestre Kokou Béni du journal La Manchette. À présent, il est 12h. Nous allons nous soumettre à la pause, mais nous revenons dans un moment. Et à ce niveau-là, les auditeurs pourront appeler le 91 36 63 75, le 91 36 63 75, où le public ici dans la salle peut également intervenir par des questions ou des commentaires. 93.5. Bien, nous sommes de retour ici à la Maison des Jeunes, Amanda Romé, qui accueille la semaine de la santé, l'initiative de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, l'Ordre national des médecins du Togo, avec à ses côtés les ordres, hein, aussi bien les médecins que les pharmaciens, avec tous les corps associés, les sages-femmes, les infirmiers, il y a même ceux qui sont dans les instrumentistes, hein, au bloc opératoire, et naturellement la voix syndicale, vous avez les anesthésistes aussi. Eh bien, vous avez écouté pendant 60 minutes. À présent, la parole est à vous. Vous appelez le 91, le 36, 63, 75. Mais nous avons un public ici. Oui, s'il plaît, docteur. Docteur Pana, que nous avions beaucoup reçu dans nos studios au moment de la COVID. Qui se trouve ici avec nous. Docteur, bonjour.
Bonjour, Sass.
Question ou commentaire?
Je fais trois petits commentaires.
Eh bien, en une minute et demie.
Oui, en une minute, trois quarts.
Allez-y, docteur.
Merci beaucoup. D'abord, pour féliciter nos collègues, l'Ordre des médecins et les autres ordres, pour cette semaine qui rentre dans le droit chemin du dialogue entre les bénéficiaires et les agents de santé. Donc, j'espère qu'on aura deuxième, troisième et puis énième semaine et bien décentralisé aussi. Mon deuxième commentaire est lié justement au système de santé. Je voulais rappeler que le système de santé inclut les politiques, les stratégies, les structures, les infrastructures, les ressources, à savoir humaines, matérielles, financières, mais également le temps, parce que surtout en Afrique, on prend le temps comme étant élastique, ce qui n'est pas très en avantage avec les bénéficiaires. Également, le système comprend les organisations, c'est-à-dire comment les services, les structures sont organisées pour donner le meilleur résultat attendu. Et enfin, un élément clé, c'est les bénéficiaires et les acteurs. Alors, monsieur, ça, ce qu'on appelle système, quand on dit système, quand vous prenez un orchestre, il y a le symphoniste, il y a le batteur, il y a le guitariste, il y a le, etc. C'est celui qui joue le patengue, etc., etc. Si un seul défaillant là-dedans, c'est tout le système qui est grippé. C'est comme ça qu'on doit concevoir le système de santé. Donc ce n'est pas seulement que les agents de santé qui font le système de santé. Il faut que les bénéficiaires que nous sommes, parce que même agents de santé, nous sommes aussi des bénéficiaires. Les gens pensent que les médecins, les infirmiers ne meurent pas. Alors quelqu'un m'a dit, non, tu es toujours jeune parce que tu es médecin. J'ai dit, ah bon, allons au cimetière, on va voir s'il n'y a pas des agents de santé qui sont là-bas. Donc il faudrait que les gens comprennent que les agents de santé sont là, comme l'a dit mes confrères et mes consoeurs sur cette table-là. Ils sont là pour vous, mais vous êtes aussi là pour eux. C'est très important. Je finirai par le dialogue social. C'est ce qui a commencé. Je suis d'accord avec Madame Tianyao quand elle se plaignait tout à l'heure que on attend le public. C'est le moment de venir discuter avec les agents de santé, avec les responsables, pour qu'on puisse comprendre certaines choses qui semblent ne pas être claires à leur niveau. Parce qu'il y a beaucoup de confusion souvent en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des acteurs, je dis bien des acteurs de la santé. Donc, je pense que l'ordre, vous devez travailler là-dessus. Ne vous fatiguez pas. Et il faut toujours continuer. Syndicat, il faut toujours continuer. Et que le dialogue social dont on entend parler beaucoup dans le pays, ne se concentre pas seulement sur certaines thématiques. La santé est prioritaire. Merci beaucoup.
Merci, docteur.
Beaucoup et félicitations à tous les agents de santé de notre pays et dans le monde. Et merci aussi aux acteurs qui sont aux côtés des agents de santé pour donner la meilleure santé. Parce que sans santé, il n'y a pas de développement.
Merci. C'est la voix d'un médecin qui a une riche expérience ici au Togo et ailleurs. C'est vrai que les organisateurs s'attendent à un plus grand public. Mais nous sommes le 8 aujourd'hui. La semaine de la santé se tient jusqu'au 11 novembre avec l'espoir que le public viendra croissant. Même si il faut reconnaître quand même que la maison des jeunes, Amanda Romé, elle est grande, mais l'accès n'est pas toujours facile. Les voies qui aboutissent ici méritent d'être entretenues. Nous signalons ça à l'endroit des maires et pourquoi pas de tout le gouvernement. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, auditeur en ligne. Oui, bonjour l'ami. Ça va chez nous, ça monsieur? Ça va chez nous, ça va chez nous. Oui, ça monsieur? Akpo. Ok, allez-y, nous écoutons. Merci. Je vous en prie, monsieur Akpo, est-ce que la semaine de la santé offre l'occasion de faire des bilans au public? Professeur Beketi, notez la question. En attendant le prochain auditeur, vous y répondez en même temps.
Non, je ne dirais pas qu'on...
Oui, professeur, il y a un autre auditeur en ligne, bonjour. Oui, ça, monsieur.
Allô?
Oui,
monsieur?
Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Je voulais dire qu'il y a un la seule
qui
est là. Oui. C'est actuellement un agent de sécurité de la communauté, à cause de la situation de la
Excusez-moi, nous avons du mal à vous écouter distinctement. Nous avons du mal à vous écouter distinctement. Je voudrais bien nous excuser. Merci. Je suis désolé, nous n'avons pas réussi à écouter distinctement ce que disait l'intervenant au bout de la ligne. En attendant le prochain auditeur qui s'annonce qu'il n'est pas encore là. Eh bien, professeur Beketi.
Oui, merci beaucoup, monsieur Sass. Donc, ce que je disais, on offre des conseils mieux. On offre des conseils sur la santé. Quand vous viendrez sur le site, on vous offrira des conseils qui vous permettront de savoir quoi faire. Mais le bilan de santé, ce n'est pas seulement des analyses médicales. Donc, si vous avez besoin de conseils, vous venez, il y a les spécialistes de tout ordre qui vous donneront des informations dont vous avez besoin. Merci.
Je vous en prie, professeur. Je peux témoigner que ici sur le site, il y a le CHU Le Métocoin qui a son stand. Il y a le CHU Campus qui a également son stand. Il y a également des cliniques privées comme Ossinou, Bobo, clinique, je pense, Saint-Joseph. Hôtel Delhi, d'autres cliniques également qui ont leur site, qui ont leur stand. Si vous les approchez, vous pouvez prendre rendez-vous pour ce qui vous concerne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Ah, nous rendons grâce. C'est Evangeliste Senghor. Oui, nous écoutons. Evangeliste Senghor, vous savez, nous parlons politique tout le temps. président, nous parlons du procès Madjouba depuis deux semaines. Demain, nous y reviendrons, mais souffrons qu'aujourd'hui, nous accordions un peu de l'importance à notre santé. Même les acteurs du procès là-bas, ils ont besoin d'être en bonne santé, qu'ils soient acquittés ou condamnés. Nous leur souhaitons, comme à nous-mêmes, de la santé. On peut quand même s'accorder une journée pour parler santé. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Un autre auditeur ou bien public dans la salle, nous avons besoin également des témoignages. Comme l'a dit docteur Panoa, nous aurions bien aimé avoir l'avis des usagers, ceux qui fréquentent cette semaine de la santé, quelles sont leurs impressions? Ah, Martin Kadambara. Oui, Martin, nous vous écoutons. Oui, Martin Kadambara, nous vous écoutons. C'est un peu les aléas de la du direct. Il n'a pas le retour, malheureusement. Pendant ce temps, notre temps s'écoule. Il nous reste juste deux minutes avant de faire le point. Oui, un complément d'information, docteur Chalonyanou. Oui, docteur Gilbert.
Merci, Sass. Tout à l'heure, l'auditeur a posé une question sur le fait est-ce qu'on pouvait faire des bilans de santé.
Oui, il voulait savoir si on bilan de santé au cours de la semaine de la santé.
Je comprends très bien la question. En fait, c'est par rapport à la gratuité.
Oui.
Je pense qu'il faut qu'on dise les choses clairement. Je pense que les gens sont dans l'expectative qu'on puisse faire des bilans de santé et des bilans sanguins de manière gratuite. Nous devons aussi de la vérité aux populations. Pour leur dire que la santé a un coût. La vie n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Quelqu'un paie quelque part ce qu'on vous utilise. Et il se dit aussi que lorsque quelque chose est gratuit, c'est vous qui êtes cobaye. Forcément, attention à la gratuité. Quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes cobaye. Donc, je veux dire pour ce que d'éviter de prendre la santé comme purement sociale. Nous dépensons des millions pour acheter des portables. On n'est pas capable de dépenser 30 000 francs pour faire un bilan de santé en millième. Ce n'est pas normal. On n'a pas d'autre chose que notre vie et nous devons de la préserver. Donc en faisant le nécessaire, en y mettant aussi des moyens pour préserver le seul bien précieux que nous ayons qui est notre vie.
Merci, c'est une interpellation qui s'adresse à nous. Si nous faisons la somme de ce que nous portons aujourd'hui comme habit, depuis la tête, depuis les chapeaux jusqu'aux chaussures, combien ça coûte? Mais combien sommes-nous prêts à aller à dépenser pour être en bonne santé? Madame Tchanyao. Merci, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons faire un rapide tour de table. Chacun des acteurs va nous dire en une minute ses impressions, ses attentes, voire sa conclusion. Commençons par docteur de l'Ordre national des fonds.
Ok, merci monsieur Sass et merci pour la tribune que vous nous offrez. Je vais rapidement préciser aussi qu'au niveau de l'Ordre des pharmaciens, du stand de l'Ordre des pharmaciens, nous présentons le métier du pharmacien dans toute sa dimension. Parce qu'aujourd'hui, ce que les personnes connaissent, c'est l'officine de pharmacie. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, en fait. En bas, il y a une machine très fonctionnelle, très huilée, pour faire en sorte que le médicament soit le médicament. Et le médicament est un médicament quand l'expertise du spécialiste y est apportée. Et ça part déjà de la réflexion sur le médicament qui naît d'un besoin de santé, en passant par la formulation, le contrôle, la mise à disposition à travers un circuit de distribution, jusqu'à ce que ça n'arrive à nos officines. Sur tout le circuit, il y a un pharmacien. Et après, maintenant, il y a encore une évaluation qui est faite des effets après usage du médicament. Ça, peut-être la population ne le sait pas. Nous avons échangé avec une dame dans un stand la dernière fois qui disait qu'elle ne savait pas que lorsqu'elle a des effets juste après l'usage d'un médicament, qu'elle devait revenir vers le pharmacien. Donc, je lui ai dit qu'effectivement, elle peut revenir vers le pharmacien. Donc, il y a cette explication que nous apportons au niveau de notre stand et nous demandons à la population de venir. Si vous permettez, Monsieur Sass,
oui,
je vais reporter mon chapeau de membre du comité d'organisation de la Semaine de la Santé et annoncer que la Semaine de la Santé va se clôturer ce samedi 11 novembre avec une marche. Vous n'êtes pas sans savoir que l'activité sportive est essentielle pour la santé. Et il y a un miracle qui s'opère quand on fait une bonne activité sportive, c'est qu'on a un grand sourire et on a les tensions musculaires qui baissent. Donc nous vous invitons massivement à venir avec nous. Ça démarre ici à 7 heures et on va circonscrire les environs, aller vers Avidji, faire à peu près 10 km et revenir ici clôturer autour de 9h-10h. Merci, Monsieur Sass.
Mais ceux qui sont à Baguida, n'ont pas besoin de venir ici. Chacun peut s'imposer de faire une marche de 10 km. Bonsoir à Bouet, à Baguida, un peu partout. Ce sera notre façon de nous associer à l'activité de clôture de la Semaine de la Santé.
Mais que l'autorité soit informée de la marche. Que l'autorité soit informée avant de commencer la marche.
Ce sera une marche pour la santé.
Voilà. Donc, je voulais, puisque nous sommes à la fin, revenir sur ce que j'ai écouté tout à l'heure autour donc, du plateau qui fait froid au dos. Tout à l'heure, j'ai écouté donc Dr Chalignano qui disait que ils ont fait une demande donc pour le sable, le sérum antivenimeux. Sur 300 commandes, on n'a reçu que 3 cartons. Oui. Je crois que c'est effarant. Donc il faudrait véritablement que l'État puisse redoubler les manches pour qu'on puisse avoir ce sérum-là, surtout au nord du pays, puisque c'est la période. Vous allez au nord du pays, nous avons
dans toutes les campagnes,
surtout à Sokodé, il y a une fréquence accrue de morsures de serpent dans la période. Donc il faudrait véritablement que l'État puisse prendre les responsabilités qu'on est quand même sur ce rôle-là.
Merci, voilà. La vice-présidente de l'ANIT, Madame Colm.
Oui, merci Monsieur Sass, merci à tous. J'aimerais inviter ceux qui viennent visiter notre stand, qu'arrivés, ils n'ont qu'à prêter oreille pour écouter notre sensibilisation. Vu que qu'on fait la prise de la glycémie, qui est gratuite, et puis le TH, quand ils viennent, ils sont pressés de faire juste la prise et puis de partir. Ils ne veulent pas écouter le message qui est derrière. J'aimerais les inviter qu'arrivés, qui prêtent oreille, qui nous écoutent avant de nous bousculer. J'aimerais aussi dire à la population de faire attention à tous ceux qu'ils visitent pour consulter en tant qu'infirmier. Comme on vient de le dire, n'importe qui ne peut pas prendre le chapeau d'infirmier. Quand on est infirmier, et une école infirmière pour se dire infirmier, parce qu'il y a beaucoup de formés sur l'État présentement qui font des bêtises et qui mettent ça sur le dos des infirmiers diplômés d'État. Donc j'aimerais sensibiliser la population. Dès qu'ils sont indisposés, ils n'ont qu'à se présenter dans un centre public ou confessionnel.
Pas calme, qui représente l'Association nationale des infirmiers infirmières du Togo, des infirmiers au sage-femme. Madame Tchanyao, votre conclusion en une minute, s'il vous plaît.
Oui, en une minute, d'accord. Et notre conclusion, c'est que nous saluons cette première édition de la Semaine de Santé. Nous allons l'évaluer et voir la périodicité à l'avenir. Et nous n'avons pas pu éteindre notre soif parce que la population pour laquelle nous avons organisé la semaine, elle n'est pas venue
pour nous voir, pour qu'on échange, parce que c'était une intégration en réalité que nous voulons faire. Nous voulons nous réintégrer dans notre communauté. Nous servons notre communauté. Il faut qu'elle sache qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons en réalité. Mais on s'est dit que c'est une première édition. Nous-mêmes, nous avons des leçons à apprendre de cette édition et nous pensons qu'à l'avenir, nous allons mieux faire pour que ça puisse être...
C'est un engagement. Et quand c'est une femme présidente d'association qui le dit, hein, on doit s'attendre à la suite sûrement. Docteur Tchalignanou, au nom du Saint-Vote, votre conclusion en une minute, s'il vous plaît.
Non, c'est que cela augure de l'avenir meilleur pour la santé au Togo. Que nous... Je pense qu'il faut qu'à l'issue de ça, nous puissions rapidement aller aux états généraux de la santé. Je crois qu'il faut les faire. C'est hyper important si nous voulons avoir une assurance maladie universelle réussie. Nous devons rapidement nous retrouver pour déterminer l'essentiel, le paquet minimaliste, pour qu'on puisse déclencher le processus en janvier 2024. Il y a des préalables et il nous faut les faire. C'est une très bonne chose, la science maladie universelle, pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de qualité. Décision du chef de l'État qui est à saluer, mais il nous faut, en tant qu'acteurs et bénéficiaires, faire en sorte que cela devienne une réalité.
Merci. Merci, docteur professeur Beketi.
Merci beaucoup.
La conclusion finale de cette émission.
Merci beaucoup, en tout cas, SAS, pour cette opportunité. Et c'est vrai que la semaine de la santé, c'était un rendez-vous du donner et du recevoir pour un dialogue social inclusif, mais dans le domaine de la santé. Nous voulons déjà remercier et toute la population, celle qui est venue, qui est venu voir ce que nous sommes en train de faire, ceux qui sont venus pour profiter de certaines prestations. Mais nous attendons cette population, qu'elle vienne parce qu'il y a des conseils et qu'elle vienne découvrir ce que il y a comme offre pour les différentes sociétés et pour et profiter du tout. Mais je voudrais également les inviter le samedi à participer et à la marche et que qu'ensemble nous puissions aller vers les états généraux de la santé et bâtir un système de santé résilient pour que en 2024 le système d'accès universel soit bénéfique.
Merci à nous tous. À vous, merci professeur Beketi, nous souhaitons bonne suite à la semaine de la santé jusqu'à samedi 11, mais nous attendons déjà à la deuxième édition en 2024, à la troisième édition en 2025, ainsi de suite. Pourquoi pas un concept, un label qui vient d'être né. Eh bien, c'est fini définitivement pour aujourd'hui. Demain, le Club de la Presse vous retrouve dans sa version traditionnelle au studio avec les questions de l'actualité sociopolitique tous azimuts.